Bonjour à tous. Bonjour à tout un chacun. Ben, comme c'est un petit peu clairsemé, je suis désolée, on va devoir un petit peu s'avancer, si vous le souhaitez. Eh ben, Othniel, tu peux rester là-bas, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est mieux comme ça. Bonjour. Merci à chacun pour sa présence. Merci parce que le Seigneur nous a disposés à venir dans sa maison, n'est-ce pas? Et je vais demander au frère Eben s'il veut rendre grâce pour ce culte, avant que nous commencions.
Pour le siècle, le siècle.
Amen. Amen, alléluia. Merci à chacune de mes sœurs, à chacun de mes frères ici présents, et tous ensemble, unis par l'Esprit Saint, nous allons rendre un culte qui, nous l'espérons, soit agréable à notre Seigneur Jésus. Hosanna. Dans le livre d'Hébreu, le Seigneur nous dit « Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. » Hosanna, cri de triomphe, cri d'allégresse. Et dans certaines versions, la traduction grecque dit « Sauve maintenant, Hosanna, à celui qui vient. » Quand Jésus est rentré dans Jérusalem, la foule l'acclamait, la foule criait. Et c'est ce que nous sommes venus faire en ce matin, parce que notre Sauveur, il est vivant, n'est-ce pas? Nous allons chanter Hosanna, c'est le prochain chant. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Ouvrons les portes.
Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna,
Hosanna,
Hosanna, Hosanna.
Marchons ensemble,
marchons ensemble.
L'ennemi tremble,
l'ennemi tremble. Chant de victoire, Hosanna. dansons.
Dansons devant lui.
Dansons devant lui.
Remplis de sa vie.
Remplis de sa vie.
Dieu est avec nous.
Notre Seigneur.
Hosanna. 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 Hosanna.
Alléluia. On s'imagine, moi la première, accueillant le roi des rois à Jérusalem. Amen. À cette époque, n'est-ce pas?
Amen.
On mettait les manteaux avec les feuilles de palme, vous savez, et on l'accueillait avec force, avec joie. Il venait libérer le peuple. Le peuple, Israël, croyait ça. Il venait libérer le peuple par des armes humaines. Mais gloire lui soit rendue. Gloire lui soit rendue. Il est venu nous libérer. En esprit, en vérité, il est venu nous libérer, et ce pour l'éternité, avec les armes que le Père lui a données. Force, puissance, la louange qui délivre aussi. Amen. Chantons notre Dieu. Hosanna, un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi.
Qui reviennent à toi.
toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées.
Yémen, en te voyant.
En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient.
Seigneur, en ce matin, il entend le son de nos cœurs. Il entend ces cœurs, le cœur de Magali, le cœur de Viviane, d'Eben, de Willy, de nos enfants qui reviennent à lui. Parce que nous savons en qui nous croyons. Le jour où il nous a arrêtés sur notre route de Damas, il a fait de nous de créatures, il nous a fait enfants de Dieu, fils et filles du Dieu très haut. Entends nos cœurs qui reviennent à toi en ce matin. Dans ton royaume, Dieu trois fois saint, les vies brisées sont restaurées, n'est-ce pas ? Elles sont restaurées. Alors en ce matin, quand nous sommes venus, tels que nous étions avec notre humanité, le Seigneur nous reçoit. Il nous reçoit. Quand nous sommes en sa présence, nos craintes, elles fuient. Elles s'enfuient. Et avant de passer dans ce moment de louange, d'exaltation, ou comme ma grand-mère disait, « Pieds en nous, pas qu'à toucher le sol. » Dans la louange, nos pieds ne touchent pas parce que nous montons en esprit avec le Seigneur. Nous allons chanter « Je loue ton nom éternel ». Et nous demandons au Seigneur, dans le psaume 51, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ouvre mes lèvres et ta bouche, pardon, oui, et ma bouche publiera ta louange. Je loue ton nom éternel. »
Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver.
On reprend, je loue ton nom éternel.
Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, mon genoux, ton nom éternel.
Alléluia.
Éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel.
Tu viens du ciel.
Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom.
Alléluia. Gloire à notre Dieu. Y a-t-il des bien-aimés sur Zoom, Aurélien? Bonjour à Caroline. Ah, elle ne nous entend pas. Et qui est ce numéro? Vous connaissez? Non? Bonjour à ceux qui sont sur Zoom. Vous n'êtes pas présents, mais nous avons... Je dirais la même fonction, non, le même privilège. Je loue ton nom éternel. Et en ce matin, si nous sommes là, c'est une grâce de Dieu. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver tous. Tu viens du ciel sur la terre montrer la voie. C'est ce qu'il a fait pendant ses 3 ans de ministère ici-bas. Il est venu nous montrer la voie. De la terre à la croix, cette terre qu'il a foulée, cette croix où nous l'avons crucifiée tous ensemble, il a payé pour chacun de nous. Il a payé pour chacun de nous. Et de la croix, il est descendu dans le séjour des morts, le tombeau. Nous chercher, tous, sans exception, parce que tous nous sommes pécheurs. Nous sommes vaniteux, nous sommes méchants, orgueilleux, hypocrites, menteurs, et j'en passe, et des meilleurs bien-aimés. Mais il est parti nous chercher au séjour des morts. Et du tombeau, il nous a ramenés au ciel, en esprit et en vérité. Nous sommes assis maintenant à la droite du Père. Ici-bas, nous le louons dans cette vie de pèlerinage que nous avons. Nous le louons. Mais un jour, sûr et certain, ce jour véritable où il viendra nous chercher, nous serons avec lui pour le louer et ce pour l'éternité. Amen. Bien-aimés, le Seigneur en ce matin, il vous invite au travers de sa parole dans Apocalypse 5 et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer. Tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. Alors, peuple de Créteil, commençons à louer notre Dieu maintenant, aujourd'hui, dimanche 28 août.
Thank you.
Merci pour l'espérance vivante. Merci pour ton retour glorieux. Merci pour ta parole.
Alléluia, Jésus.
Merci qui nous encourage chaque jour à persévérer, non seulement dans cette attente, mais aussi dans la prière et dans le combat qui est livré et qui est aussi déjà gagné.
Amen. Bien-aimé, j'ai été interpellée par ce que j'ai regardé hier à la télévision, aux informations. Et j'ai eu tellement de tristesse dans le cœur. Je l'ai dit ce matin à Raymond. En Inde, il y a la mousson. Et ça faisait des années qu'ils n'avaient pas vu cette mousson, ce niveau d'eau monter. Ils sont habitués à la mousson. Parce que l'être humain s'adapte à tout. Au froid, à la chaleur, on s'adapte à tout. Ils sont habitués à la mousson en Inde. Mais là, c'est une mousson qui bat tous les records. Des milliers de personnes déportées. Parmi ces milliers de personnes, bien-aimées, il y a de nos frères, de nos sœurs qui ont tout perdu. Et pourtant, dans leur simplicité, je veux croire qu'encore aujourd'hui, ils vont louer leur Dieu, notre Dieu. Parce que, oui, ils ont tout perdu, mais ils ont la vie sauve. En Jésus-Christ, nous avons la vie sauve. Et ça m'a tellement peinée. Je me suis dit, Patricia, waouh, toi, tu as tout. Et le matin, tu te lèves, oh, tu dis à Raymond, oh, j'ai mal là, oh, j'ai ceci, j'ai pas envie d'aller travailler, les transports me gonflent. Eh oui, c'est comme ça. Et pourtant, mes enfants sont là, mon époux, vous êtes là, j'ai un travail même si je râle après. Le salaire à la fin du mois, je dis, c'est pas assez. Et pourtant, j'ai tout. Et par-dessus tout cela, j'ai Jésus-Christ. Et je trouve que quelle tristesse dans le monde. Quand j'ai regardé le visage de ce monsieur qui disait, il a tout perdu. Et il attend que le gouvernement, ce n'était pas en Inde, en Pakistan, fasse quelque chose pour lui. Parce que si le gouvernement ne fait rien pour lui, il a perdu tout espoir. Et notre espoir à nous, il est en Jésus-Christ. Quand bien même que nous sommes couchés sur notre lit d'hôpital, dans un fauteuil roulant comme ma sœur Cathy qui est notre sœur, notre espoir est en Jésus-Christ. Alors ce matin, bien-aimés, que nous puissions chanter « Jésus, espoir des nations » et que nous puissions après ce chant continuer à le louer. Ne restons pas la bouche fermée en ce matin. Oh papa, pardonne-moi, pardonne-nous. Jésus, espoir des nations, Jésus, notre espérance. Il y en a de ceux qui quittent le monde sans espérance, qui ne verront jamais le Seigneur. Mais nous, nous avons cette assurance. Alors ouvrons notre bouche pour chanter Jésus, espoir des nations, et pour le louer.
Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière d'un nuit, Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu briser le rire, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir. Oui, nous
Jésus, espoir des nations.
Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de l'espoir.
Pardon.
Jésus, lumière des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière d'un
ce matin, bien-aimé. Est-ce que vous le croyez? Alors dites-le, oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Alléluia. Hosanna, celui qui vient. Jésus, espoir des nations. Ouvrons notre bouche en ce matin pour dire, oui, nous croyons. Tu es notre source de vie, notre espérance, l'espoir des nations. Amen. Ouvrons nos bouches en ce matin. Oh Dieu. Oh Papa mon Dieu, ce matin je veux te prier, je veux te louer, je veux te dire combien je t'aime. Dans mon imperfection Seigneur, tu m'as arrêté et tu as fait de moi ton enfant. Quel jour merveilleux, où de la mort je suis passée à la vie. Quel jour merveilleux, où tu as fait cela pour mes sœurs, pour mes frères, pour tout être humain, criant dans le désert. Fermé, emprisonné derrière des portes de prison, tant visible qu'invisible. Tu l'as fait aussi pour ceux qui sont, oh, qui ont tout perdu. Dieu trois fois saint, en ce matin, je me réjouis de cette position. En ce matin, je ne peux pas rester la bouche fermée, parce que en Jésus-Christ, j'ai tout. Humainement parlant, j'ai tout. Oh Père, béni ton église en ce jour. Bénis tous ceux qui sont réunis et qui invoquent ton nom avec sincérité de cœur. Et fais grâce en ce matin. Fais grâce. Tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de toute puissance, un esprit d'assurance et de conviction. Merci pour chacun de nos combats remportés sur la croix à Golgotha. Merci pour nos maladies crucifiées à la croix. Merci parce que tu es parti nous chercher dans le séjour des morts, ressuscité en esprit et en vérité. Merci Dieu trois fois saint. Je te loue, je te bénis en ce jour merveilleux que tu as fait, en ce dimanche où nous sommes réunis en ton nom. Amen. Nos soupirs et nos supplications, Dieu les entend. Nos prières silencieuses, Dieu les entend. Parce qu'il est créateur de toutes choses. C'est lui qui sonde nos cœurs. Il fait grâce en ce matin. Il fait grâce à celui qui vient à lui, tel qu'il est, en toute sincérité, dans la joie, dans les peines. Dieu entend le cœur de chacun en ce matin. Et il veut que nous nous réjouissions. Tous ceux qui ont fait la paix avec lui, Il veut que nous nous réjouissions parce qu'un jour, tout ce que nous connaissons est appelé à disparaître. C'est dur peut-être, bien-aimé, mais tout ce que nous voyons ici-bas, sur cette terre, est appelé à disparaître parce que Dieu l'a dit et Dieu le fera. Il fera des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et tous ses enfants, avec la multitude des anges, nous serons tous dans la félicité. Notre espérance, elle est véritable, bien-aimée. Il entend nos cœurs. Il entend le cœur de mes sœurs, ces cœurs de maman pour leurs enfants, ces cœurs de mes frères, quand ils sont insatisfaits peut-être. Il entend le cœur de celui qui le cherche à tâtons. Et il fait grâce en ce jour. Il a fait grâce à des millions, à des milliards d'êtres humains avant nous. Il le fera encore et encore jusqu'à ce qu'il revienne chercher l'épouse. Et nous participerons tous ensemble à ce merveilleux repas. Ô Père, en ce matin, je te bénis, je te loue pour tous ces chants que nous avons fait monter vers toi, pour cette louange. Je te bénis, je te loue en ce matin. Pas seulement moi, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour cette louange, cette adoration, ta parole, source de vie qui sera ouverte dans quelques instants. Bénis ton serviteur, qu'il soit fait tout petit devant ta face et que toi seul sois élevé. Tu nous prends tels que nous sommes, Papa. Tu nous prends tels que nous sommes. Quel merveilleux amour. Oh, quelle fidélité. Entends nos cœurs en ce matin. Transforme, moi la première. Brise ce que je n'ai pas de bon en moi, Seigneur. Façonne-moi. Il est facile de dire que nous sommes enfants de Dieu. Il est facile, notre bouche le dit. Mais ma vie, Seigneur, est-ce que ma vie reflète cette position, cet immense privilège? Que je puisse ce matin me remettre en question, Papa. Et que mes frères et sœurs aussi puissent le faire en toute humilité, en toute sincérité de cœur. Merci pour ton serviteur Serge, mon frère bien-aimé, qui va nous enseigner, qui va nous dire ce que tu lui as mis sur son cœur en ce jour. Et ouvre nos oreilles, notre entendement, pour que nous puissions recevoir ce que toi, notre Dieu, notre Père, Maître, Seigneur et Sauveur, tu as à nous dire en ce jour. Amen. Je vais inviter Serge, je dis merci à la famille Bonhomme, à Magali, ma sœur. Elle a une belle voix, n'est-ce pas? Ah. Merci à tous et merci à notre frère pour la parole que le Seigneur lui a mise sur son cœur.
Bonjour bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait cette grâce d'avoir un service de louange à l'honneur de notre Dieu. Et nous voulons bénir Dieu pour nos sœurs. Et comme notre sœur Patricia l'a dit, pour la famille Bonhomme qui nous a conduits dans la musique ce matin. Soyez bénis, en nom de Jésus. J'aimerais, avant de continuer notre exhortation de dimanche dernier dans l'évangile de Jean chapitre 4, donner quelques psaumes d'encouragement ce matin. Peut-être pour quelques-uns d'entre nous qui attendons la grâce de Dieu se manifester. Pour ces personnes, j'ai à cœur de vous laisser quelques psaumes. Le psaume 4, verset 2, qui dit « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. » Psaume 9, verset 10. L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Psaume 10, verset 1. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse? Et le psaume 18, verset 7 répond. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. Psaume 20, verset 2. Que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Alléluia. Psaume 107. Verset 6. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Et le verset 13 reprend le même refrain. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Le verset 19 du même psaume 107 reprend. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Et le verset 28 dit la même chose. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Bien-aimés, Dieu est le Dieu de ta délivrance. Dans la détresse qui peut être la tienne, la mienne, ces psaumes, ces hommes de Dieu ont fait l'expérience du Dieu de la délivrance. Aie confiance en Dieu, prie ton Dieu, regarde à sa main agitante, certainement l'Éternel te délivrera. Amen. Voilà quelques encouragements pour nous qui sommes ce matin dans ce temps d'adoration et de louange à notre Dieu. Dimanche dernier, le 21, nous avons commencé à méditer dans cet évangile de Jean, le chapitre 4, et nous avions fait la lecture du verset 1 au verset 26, et nous avions essayé ensemble de nous enrichir de ce texte, de cette rencontre de Jésus et de la Samaritaine, avec un focus sur cette parole forte de Jésus. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Il n'est plus question d'adorer Dieu sur le mont Garizim ou à Jérusalem. Désormais, partout où il y a des hommes et des femmes qui tournent le cœur vers Dieu, qui lui font appel, Dieu se laisse trouver. Et Jésus avait eu cet échange avec la Samaritaine. Elle avait dit à la fin de cet échange, je sais que quand le Christ, le Messie viendra, il nous expliquera tout. Et à Jésus de dire, celui qui te parle, c'est le Messie qui te parle. Et c'est ainsi que nous arrivons au verset 27 et je fais la lecture jusqu'au verset 42. Sur ces entrefaits, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux cependant ne lui demanda, que lui veux-tu ou pourquoi parles-tu avec elle? Alors, la femme laissa sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ ?» Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Entre-temps, les disciples pressèrent Jésus en disant, « Maître, mange donc !» Mais il leur dit, « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandaient donc entre eux, est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger? Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien, moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche, reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle, si bien que le semeur et moissonneur partagent la même joie. Ici se vérifie le proverbe, autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui vous a coûté aucune peine. D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Verset 39. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme, en déclarant, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et il disait à la femme, nous croyons en lui non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. La parole de Dieu. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Jésus avait rappelé à cette dame, dans cet échange avec elle, c'était un temps favorable. Souvenez-vous que le texte avait dit clairement, lors de cet épisode, que Jésus décida de traverser la Samarie pour se rendre en Galilée. Cette décision de Jésus allait avoir des conséquences fortes sur la vie d'une femme, mais sur la vie de tout un peuple, les Samaritains. Cette rencontre n'était pas fortuite. Dieu, bien avant la fondation du monde, Christ avait décidé de rencontrer cette femme. Et justement, dans cet échange, Jésus va aller jusqu'à toucher le problème de cette dame. Et c'est fort de la révélation de Jésus sur ce problème que la question de l'adoration, les vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, va surgir. C'est un temps nouveau. Jésus est celui qui inaugure ce temps nouveau, où désormais Dieu est accessible, non pas au travers d'un intermédiaire humain, mais tout être humain qui se tourne à Dieu peut accéder à Dieu en Jésus-Christ. Peut-être que nous qui sommes chrétiens, nous ne réalisons pas le privilège que nous avons de pouvoir nous adresser à Dieu directement et de pouvoir être entendus comme le psaume de David le disait. David en était bien conscient. Dans les psaumes, il le dit, cette relation intime avec Dieu, cette force de David de voir son Dieu face à face, de lui parler, d'être dans un dialogue avec son Dieu. Le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de l'univers, est un Dieu de proximité, est un Dieu de relation. On peut croire qu'un si grand Dieu est assis quelque part et qu'il s'en fout de tout le monde. Non, c'est pas vrai. C'est un Dieu qui est concerné par sa création. N'oubliez pas que lors de la création, la Trinité a dit « créons l'homme à notre image ». La seule création qui a l'image de Dieu, c'est l'être humain. Et cette filiation, elle était là dès le départ. Le texte dit qu'il venait parler avec Adam. Et Adam savait à quel moment Dieu venait parler avec lui. Bien-aimés en Christ, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui avons reconnu notre péché, et qui avons reconnu que nous-mêmes, nous n'étions pas une solution et que le monde ne nous proposait pas de solution et que la seule solution au péché, c'est le Christ Jésus en sa mort et sa résurrection, Dieu s'est reconnecté avec nous à nouveau. Il a fait de nous ses enfants par adoption et ce qu'il désire plus que tout, c'est que nous soyons de vrais adorateurs, de vraies adoratrices, ceux qui vivent avec Dieu en esprit et en vérité, qui marchent selon le Christ Jésus. Cette femme a été impressionnée. Elle a été, comme on dit, scotchée. Tellement impressionnée de ce que Jésus venait de lui dire, je suis le Messie, que lorsque les disciples sont arrivés, elle s'est enfuie tout simplement. Pourquoi elle s'est enfuie? La preuve, c'est qu'elle a oublié même son eau qu'elle était venue puiser. Parce que ce qu'elle venait de découvrir était plus important que l'eau qu'elle était venue puiser. Elle est retournée dans son village en hâte. Pour ameuter tout le monde. Venez voir! J'ai fait une rencontre aujourd'hui incroyable. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Elle est débordée de joie. Et maintenant, on voit que ce qui est important, alors que dans le dialogue avec Jésus, elle était scotchée par le matériel, par l'eau du puits. Et là, son esprit s'est ouvert. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Dieu connaît ta vie, mon frère. Dieu connaît ta vie, ma sœur. Dieu connaît tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Ça doit pas nous faire peur. Ça doit au contraire nous rendre heureux. Ce Dieu créateur du ciel et de la terre me connaît dans mes moindres détails. La Bible dit que l'Éternel ne sommeille ni ne dort, il veille sur Israël. Ça veut dire qu'il veille sur toi. Ça veut dire qu'il suit tes mouvements. Pas comme quelqu'un pour t'épier, pour t'espionner, non. Mais pour veiller sur toi. Alléluia. Dieu veille sur ce qu'il aime. Dieu veille sur nous, bien-aimés. C'est une grâce, c'est un privilège. Dans cette incapacité qu'elle avait dans un premier temps de capter la vérité spirituelle, elle a fini. Jésus, quand vous lisez les évangiles, c'est incroyable. Toutes les rencontres de Jésus sont exceptionnelles. Il sait toujours où commencer avec quelqu'un et où arriver à ce que la personne ait une révélation. Une révélation. Souvenez-vous de cet épisode de ce Zachée sur le sycomore. Ce monsieur important de la ville, mais qui était de petite taille, semble-t-il, et qui, fort de cette foule, n'arrivait pas à voir Jésus et qui a trouvé ce piédestal pour voir Jésus. Jésus l'a vu. Jésus l'a vu. Parce que Jésus savait que Zachée serait sur cet arbre. Et il a dit, descends, je vais chez toi là maintenant. Viens, je te suis. Ça a bouleversé la vie de Zachée. Bouleversé sa vie. Jésus l'a rencontré là, sur cette table. Il lui a pas dit, donne ta vie à moi. Il dit, je veux avec toi. Je te suis. Et ça a suffi pour briser quelque chose dans la vie de ce monsieur. Et Jésus a conduit cette conversation avec Zachée jusqu'à ce qu'il comprenne la vérité spirituelle que Jésus voulait lui dire. Notre Dieu est un Dieu de relation, un Dieu qui nous sait qui nous sommes et qui sait où nous prendre et nous conduit à ce que nos esprits s'ouvrent sur ce qu'il est. Serait-ce le Christ? Une question. Elle avait la réponse, elle, puisque Jésus lui a dit, je suis Messie. Mais quand elle va au village pour témoigner de ce qu'elle venait de vivre, il semble que parce qu'elle est une femme, elle ne peut pas, en tout cas dans la conception de cette époque, elle ne peut pas se prononcer sur des questions doctrinales. Hein? Vous savez, on a beaucoup évolué entre-temps, mais à l'époque, c'était pas ça pour les femmes. Donc, au lieu d'affirmer que c'était le Christ, elle lance cette affirmation en forme de question, hein, de raisonnement. En fait, elle sait qui il est, puisqu'elle lui a dit. Mais pour les autres, elle le formule en questionnement. Ne serait-ce pas le Christ, celui qui a dit ce que j'étais. Et ça suscite l'intérêt de ceux qui l'entendent dans ce témoignage. En temps, l'évangéliste Jean fait une parenthèse. Pendant que la femme va au village, les disciples sont en dialogue avec Jésus aussi. Ils s'entretiennent avec Jésus parce qu'ils n'ont pas tout bien compris. Et puis ils lui disent, on allait chercher à manger. Allez, on sait que t'as faim, j'ai mangé. Mais ils avaient constaté quand même qu'il y avait un changement d'attitude. Quand ils ont laissé Jésus, c'était un Jésus bien fatigué, un Jésus assoiffé. Hein, n'oubliez pas qu'ils avaient fait quand même certains kilomètres de marche et qu'effectivement Jésus, être humain comme nous, était fatigué et avait faim. Mais là, ils ont vu, semble-t-il, une autre physionomie de Jésus. Et quand Jésus leur dit, ma nourriture, c'est pas celle que vous m'avez envoyée. Ils disent, oula, quelqu'un est passé avant nous, il lui a donné à manger certainement. Il a mangé quelque chose d'autre. La nourriture et la boisson n'avaient plus d'importance pour lui. Son humeur avait changé, d'après certains commentateurs. Quand ils lui ont offert cette nourriture, il les instruit plutôt. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est un peu énigmatique, n'est-ce pas? Et les disciples sont perplexes. Mais en fait, ce que Jésus voulait leur dire, c'est pas que la nourriture matérielle n'est pas importante. C'est que dans ce qui venait de se passer, en fait, il a été rassasié parce qu'il venait de donner vie à quelqu'une qui était morte. Et c'est ça qui satisfait le Seigneur, d'avoir donné vie à quelqu'un qui était mort. Et il savait ce qui allait se passer par la suite, puisque cette vie allait se communiquer à tout un peuple. C'est ça la nourriture du Seigneur. Se satisfaire des vies restaurées. Trouver sa joie et son plaisir. Trouver l'étanchement de sa soif. Être rassasié par des vies qui sont renouvelés. Il n'y a pas plus grande satisfaction que celle-là. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est Dieu, le Père, qui a envoyé le Fils. C'est dans cette concertation, le psaume dit, le Seigneur dit, qui enverrai-je? Et le Fils dit, envoie-moi. Je me dispose à aller pour régler le problème que ceux que nous avons créés ont suscité, c'est à nous de le régler. Nous, la Trinité. Le Père, Créateur, le Fils qui vient faire cette œuvre de salut et le Saint-Esprit qui part derrière va venir nous régénérer, nous renouveler. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est sa grande passion, c'est ce qui le dévore, c'est de ça qu'il a soif le plus, c'est de ça qu'il a faim le plus. Il dit que vous dites, vous qui êtes des fermiers, que quand on sème, il faut attendre 4 mois, hein, en fonction des semences, bien sûr. Mais moi, je vous dis que là, la moisson, elle est prête à être récoltée. Jésus instaure qu'en fait, pour ce qui est spirituel, il n'y a pas de délai. Il est en train de dire, c'est aujourd'hui le jour du salut. Pour ces Samaritains-là, on ne va pas attendre 4 mois. C'est aujourd'hui qu'ils vont se tourner à Dieu. C'est là le jour favorable pour eux. Et c'est ce qu'ils disent aux disciples. C'est aujourd'hui le jour où ces Samaritains vont rentrer dans le royaume. Et il dit aux disciples, vous allez voir, vous allez moissonner dans quelques minutes ce que vous n'avez pas semé, parce que c'est pas vous qui avez travaillé dans le cœur des Samaritains. Et pourtant, vous allez voir les minutes qui vont suivre, vous allez moissonner des conversions. Alléluia. C'est un privilège. Il dit aux disciples, vous avez un grand privilège de conduire des gens à la foi en Christ. C'est une grande satisfaction de pouvoir témoigner. Vous savez, quand on sauve un enfant du danger, quand on sauve une personne d'une certaine difficulté financière, quand on aide un jeune à franchir les étapes de sa vie, on est satisfait parce qu'on a apporté quelque chose à un être humain. Parce qu'on a été utile pour quelque chose, pour quelqu'un. Et cette satisfaction, personne ne peut nous enlever. Parce qu'on a été utile. Mais, quand on a été utile pour l'éternité, quand on a aidé quelqu'un à rentrer dans l'éternité, bien aimé, la satisfaction ne peut pas être comparable. Quand Dieu nous a utilisés pour éviter à quelqu'un d'aller dans la mort éternelle. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Quand Jésus dit, le semeur, le moissonneur, il parle de mort ou de vie. On peut être gentil, mais on dit, en tout cas c'est un adage populaire qui le dit, que l'enfer est pavé de personnes qui avaient de bonnes motivations et qui étaient bien intentionnées. Mais c'est pas ça qui sauve, en fait. Celui qui sauve, c'est le Christ, le Messie, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. En dehors de Christ, point de salut. Car sous le ciel, nous a été donné aucun autre nom par lequel que nous devons être sauvés, si ce n'est celui de Jésus, le Christ. Cette Samaritaine, venez voir quelqu'un qui a dit tout ce que j'ai fait. Ne se laisse pas. Le Christ, ne serait-ce pas le Christ. Et on dit plus ont cru, parce que là, l'évangéliste nous donne une synthèse, mais elle a dû expliquer, elle a dû leur dire tout ce qui s'est passé. Les détails que Jésus a donné, toute la discussion qu'elle a faite, et là ça a fait tic dans la tête des gens, c'est le sauveur du monde. Parfois nous sommes des semeurs, parfois nous sommes des moissonneurs. Il y a des mamans qui s'aiment, mais qui ne voient pas la moisson. Qui s'aiment dans le cœur de leurs enfants. Avec l'espérance que quand l'enfant va grandir, il va garder la foi. Parfois, il ne garde pas la foi. En tout cas, comme on le souhaiterait. Parfois, il prend un itinéraire qui n'est pas un itinéraire qu'on aurait voulu pour quelqu'un de chrétien. Mais ces mamans et ces papas ne cessent de semer. Semer à chaque fois qu'ils ont l'occasion de dialoguer avec l'enfant, de lui poser une autre graine de l'évangile dans le cœur. Et ensuite,
elles arrosent dans la prière, dans l'intercession. Des fois, elles vont moissonner. Ils vont moissonner. Des fois, ils ne vont pas moissonner. C'est d'autres qui vont moissonner. C'est d'autres qui vont moissonner. Mais le Seigneur dit, le semeur et le moissonneur, ils ont la même salaire, ils ont la même joie. Ils ont la même joie. La même joie. Quelque chose qui me porte particulièrement dans le fait de dire l'évangile, même si je ne vois pas que les gens se tournent à Dieu, c'est que dans les dernières tierces de seconde de la vie de quelqu'un, il peut toujours se tourner à Dieu. Et je ne suis pas là-bas, mais Dieu est là-bas. Et Dieu seul sait que dans les dernières tierces de seconde de quelqu'un, il peut le racheter. Parce qu'il y a une semence qui a été plantée dans le cœur de cette personne. On a un exemple. C'est le brigand sur la croix. C'était un juif, hein. Donc il avait été enseigné dans la parole. Mais il s'est détourné. Il est devenu brigand. Et à la dernière seconde de sa vie, devant le Christ à la croix, il dit à son copain, raconte pas de bêtises. Nous, on mérite notre sort. Mais celui-là, j'ai entendu parler de lui. Quand tu seras, dans ton royaume, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Et Jésus dit, dès cet instant, tu seras avec moi. Semons, bien-aimé, semons. Nous ne savons pas l'heure de la moisson. Mais Jésus dit, la moisson, c'est à tout moment. Ça peut être maintenant, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 15 ans. Mais il faut semer. Il dit aux disciples, vous n'avez pas semé ici en Samarie. Mais vous allez moissonner là, en Samarie. Je me souviens que quand nous étions étudiants dans les groupes de l'université, on faisait beaucoup d'évangélisation avec mes camarades étudiants de notre palier. On avait évangélisé tous nos copains de notre palier du campus universitaire où nous étions. Ils se sont pas convertis, mais on priait pour eux régulièrement. On leur a distribué des Bibles. Je me souviens que mon voisin en face, il blaguait un peu avec ça parce que voilà, on était aussi des amis, et je sais pas comment il est tombé sur ce test de Timothée où l'apôtre Paul dit à Timothée, va et bois ton vin pour tes maux de ventre et tout. Et puis un matin, il dit, oh, Serge, regarde, j'ai vu dans le test biblique. Il paraît, l'apôtre Paul dit à Timothée, va boire ton vin. Donc là, c'est un verset qui me parle à moi, là, hein. Je suis allé boire mon vin. Je dis, oula, c'est que ce verset qu'il a vu, les gars, dans le texte. Incroyable. Et puis, quelques années plus tard, j'ai rencontré certains de mes voisins de palier. Ils étaient chrétiens. Ils s'étaient convertis, bien-aimés. Semons. Quand nous étions au GBU, on avait un chant dont je ne me souviens pas, mais le titre, c'est Semons dès l'aurore. C'est un vieux cantique. Semons dès l'aurore. Hein, c'est un cantique puissant et ça nous portait dans l'évangélisation. On aimait semer. Le semeur et le moissonneur ont la même joie. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Pour adorer Dieu, il nous faut le connaître. Et le connaître, c'est lire sa parole, aimer les enseignements orthodoxes, qu'on dit orthodoxes, c'est-à-dire les vrais enseignements de la parole de Dieu. J'ai fait une petite parenthèse la fois dernière pour dire, vous savez, aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi sur Internet. Soyez sages. Sachez trier. Et pour trier, il faut déjà que vous connaissiez les textes bibliques, vous puissiez les lire déjà. Et être aussi enseigné. Nous, on est fiers. Fiers de ce qu'on aime étudier la parole de Dieu. On est fiers de ce qu'on aime plonger les regards dans la parole de Dieu. On est fiers de ce que, pour nous, notre seule et vraie boussole, c'est l'étude de la parole de Dieu. Oui, Dieu nous donne des serviteurs. Oui, Dieu nous donne des pasteurs. Oui, Dieu nous donne des docteurs. Mais c'est pas eux. C'est la parole. Parce qu'un pasteur, un docteur peut se tromper. Et l'histoire de l'Église est remplie par des pasteurs et des docteurs qui se sont trompés. Pas sur tout, mais sur quelquefois certaines choses. C'est pour ça qu'il nous faut laisser constamment nos regards dans la parole de Dieu. Prédication, enseignement, c'est la première action de l'adorateur. Aimer la parole de son Dieu. aimer lire la parole de son Dieu, aimer comprendre la parole de son Dieu, aimer être enseigné sur la parole de son Dieu. Vous savez, nous on a des privilèges. Aujourd'hui on a Internet, on a tellement d'enseignants. C'était pas le cas dans le temps passé. L'épître aux Romains dit, comment entendront-ils si personne ne va pour leur annoncer? Mais comment quelqu'un irait si personne ne se lève? Et même si quelqu'un se lève, comment irait-il s'il n'y a pas une église pour le porter, pour l'envoyer, pour... Amen. Que Dieu nous aide. Et puis l'adoration, c'est aussi les chants de louange, les chants d'adoration. Chanter, quelqu'un dit, quand on chante, c'est comme si on priait encore. Parce que le chant, il nous porte, il touche nos émotions, il touche nos sensations, il touche tout notre être. Et si les paroles encore nous parlent, c'est encore plus puissant. Donc, ne chantons pas juste parce que c'est une belle mélodie. Chantons parce que chanter, c'est une façon d'adorer notre Dieu, de dire qui il est, de dire ce que nous pensons de lui et de dire ce qu'il a fait pour nous. Et puis, l'adoration, c'est aussi la prière. Quand on aime son Dieu, on aime passer du temps dans la prière avec lui. Prier, il n'y a pas de méthode de prière. Il y a juste qu'un chrétien et une chrétienne doit savoir que Dieu lui a donné un moyen puissant, c'est de communier avec lui. C'est la prière. C'est la prière. Et Dieu est là, présent, lorsqu'un chrétien prie. Il semble, c'est l'histoire qui le dit, que l'une des reines d'Angleterre, je ne sais pas si c'est celle qui est là aussi, c'était celle d'avant, mais en tout cas on dit... qu'elle disait, elle n'a pas peur de son armée, mais elle a peur d'un chrétien qui se met à genoux et qui prie. Parfois, nous ne sommes même pas conscients de la puissance que nous pouvons dégager quand nous prions Dieu. La Bible dit que dans les temps qui sont les derniers, c'est par l'Église que Dieu a décidé de se révéler au monde invisible, au monde visible, et au monde tout entier, à l'univers, c'est par l'Église. Et Dieu a donné quelque chose de puissant aux chrétiens, c'est la prière. Car la prière du juste est d'une grande efficace. Faut le croire. Et c'est pour cela que Jésus, lorsque les disciples lui ont dit, apprends-moi à prier, dit, si vous priez, dites, Abba, Père, notre Père, qui es aux cieux. Pourquoi? Parce que même les disciples, ils étaient un peu déroutés, parce que le juif, le bon juif, il prie pas Dieu en disant notre Père. Quand le juif parle de ses pères, de ses patriarches, c'est les patriarches. Notre père, Isaac, Jacob. Mais Dieu n'est pas le père des Juifs. Dieu est le Dieu Tout-Puissant au point même où ils n'osent pas prononcer ce qu'ils appellent le vrai nom de Dieu. Ils ont construit ce qu'on appelle les tétagrammes, c'est 4 lettres. Certains disent, ça veut dire Jéhovah. Il paraît qu'ils se sont trompés. On le lit en général, on le lit Yahweh. Mais en fait, ça se lit pas du tout parce que c'est des consoles qui sont pas vocalisées. Parce que le Juif veut pas prononcer le nom de Dieu. Tellement Dieu est saint, tellement Dieu est grand. Qu'on peut pas prendre le risque dans une bouche de pécheur de prononcer le nom de Dieu. Et c'est en l'état des prophètes, Lisez les prophètes. Chaque fois qu'un prophète est dans une extase et qu'il rencontre une gloire, il dit malheur à moi parce que je sais que je vais mourir. Un être humain pécheur comme moi ne peut pas rentrer dans la gloire de Dieu et rester vivant. Et à chaque fois, il y a un acte de sanctification pour qu'il soit dans la présence de Dieu. Donc les Juifs, ils savaient qui était Dieu, puisque dans leur histoire, ils ont vu quelques manifestations de Dieu, ils ont eu très peur. Dieu s'est manifesté sur une montagne, ils ont dit, oula, plus jamais, s'il te plaît Seigneur, ne te manifeste plus jamais. Il dit, Moïse, va, parle-toi seul à Dieu, et puis viens nous dire, parce que là, ce qu'on a vu, on a vu une manifestation trop puissante. C'est pour ça que Jésus disait régulièrement à ses contradicteurs, si vous saviez qui est en train de discuter avec vous. C'était une humilité, et c'est ce qu'on appelle la kénose, c'est-à-dire qu'il s'est diminué de ses pouvoirs divins pour nous sauver. Et c'est ce qu'il disait aux gens. Il dit, j'ai accepté de me réduire et d'être comme vous. Donc, et il dit à l'un de ses... le juge qui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer? Il dit, t'as aucun pouvoir sur moi. T'as aucun pouvoir. Seul celui qui t'a été donné pour cette heure-là. Et si j'avais voulu être délivré, à l'instant où nous sommes, il y a une myriade d'anges qui est posté et qui allait intervenir. Mais c'est pour cette heure que je suis venu. Et ici, Ésaïe qui dit, comme un mouton qu'on amène à l'abattoir, il n'a dit aucun mot. Aucun mot. C'est de ce Dieu qu'il s'agit, bien-aimé. C'est lui qui est notre Père. C'est lui qui veut communier avec nous. Dieu, il nous cherche. Jésus donne la parabole du fils prodigue pour dire que même c'est Dieu qui prend l'initiative d'être en relation avec nous. Le Dieu créateur. C'est pour ça que le juif, il a eu du mal à accepter le ministère de Jésus. Parce qu'il dit non, là tu nous présentes un Dieu qui est trop familier. Le Dieu que nous connaissons, c'est un Dieu tout puissant qui règne, devant qui on se prosterne tout le temps. Mais là tu nous parles d'un Dieu qui est familier, qui est proche, qui est relationnel, qui nous aime, qui s'investit en nous, qui est au quotidien avec nous. C'est quoi cette nouveauté encore? Et Jésus dit, bien sûr, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela qu'il dira, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Je tape à la porte de votre cœur, si vous ouvrez, je rentrerai et je souperai avec vous. Je demeurerai en vous. Amen. Et c'est pour cela que dans l'adoration, on a aussi ce qu'on appelle les doxologies. C'est-à-dire, parfois, c'est des expressions très courtes de louange pour honorer, pour magnifier, pour glorifier Dieu, comme Alléluia, comme Hosanna. Et souvent, dans les épîtres, on a des hymnes comme ça, qui sont des hymnes à la gloire de Dieu. Quand nous prions souvent, que nous disons l'Éternel des armées, le roi des rois, le Dieu puissant, c'est une doxologie. Nous disons des choses très fortes de notre Dieu, sur ce qu'il est dans son être intime et sur ce qu'il fait. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es El Rapha, le Dieu qui guérit. C'est pour cela qu'il nous faut faire attention à ce que j'ai appelé la dernière fois les idoles. Nous sommes des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et avant qu'elle se convertisse, il a dit à la Samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez même pas, dont vous êtes en train de vous tromper. Mais nous, on sait de quoi il s'agit. Une idole bien aimée, et je m'appuie ici sur un travail de Timothy Keller, il dit, c'est tout ce qui est plus important que Dieu dans votre vie. Donc il dit, un chrétien, il doit s'asseoir. Il doit réfléchir. Est-ce que Dieu est celui qui est le plus important dans ma vie? Si c'est oui, waouh, tu continues ton chemin. Mais si dans ton analyse, il y a quand même quelque chose ou quelqu'un qui semble être plus important que Dieu, commence à réfléchir. Ça veut dire que cette chose ou cette personne a pris la place de Dieu. C'est elle qui trône sur ton cœur. Tout ce qui est plus important que Dieu dans votre vie, c'est tout ce qui captive votre cœur, votre imagination, tout ce qui remplace les biens que Dieu seul peut donner. Aimer sa femme, c'est normal, puisque c'est Dieu qui me l'a donné. Aimer son mari, c'est normal, puisque c'est Dieu qui me l'a donné. Donc, Dieu reste sur le trône, mais j'apprécie la femme, le mari, les enfants qu'il m'a donnés. C'est pas contradictoire, ça s'oppose pas, puisque c'est de Dieu que je les reçois. Par contre, si je commence à ne pas recevoir ma richesse de Dieu et que ma richesse, je la vois pas comme un don de Dieu et je la vois finalement comme celle qui me fait ma joie, ma vie, sans elle je suis rien, là c'est devenu une idole. Là c'est devenu une idole. Parce que comme nous l'a dit tout à l'heure dans ce témoignage notre frère, de notre sœur Patricia, quand les catastrophes nous frappent, et que nous perdons tout. Si Dieu n'est pas notre essentiel, parfois c'est terrible hein, quand ça nous arrive. J'ai connu un missionnaire qui enseignait que Dieu soit l'essentiel de la vie des gens. Et quand il témoignait de ça, il témoignait de ça avec beaucoup d'émotion, puisque c'était une expérience très douloureuse. Un soir, alors qu'il était allé dans une campagne d'évangélisation, bah, les voleurs sont passés chez lui. Et ils ont tout raflé à la maison. Tout raflé. Et quand il est rentré avec son épouse, mais la maison était vide, je suis vide. La première question, c'est, mais, Seigneur, pourquoi tu as permis? J'étais allé faire ton travail. Pourquoi tu as permis ça? Et puis il dit qu'il y a une petite lumière qui a commencé à poindre dans, pas le jour même, parce que le jour même, c'était un choc. T'as tout perdu, tu dois vivre. Mais les jours se sont égrenés et le Seigneur lui a dit, mon fils, tu aimes beaucoup enseigner sur vivre avec l'essentiel, mais tu n'en avais pas encore fait l'expérience. Il dit, oula, Seigneur, parfois tu enseignes aussi de façon très brute. Et c'est là que le Seigneur lui a dit, et c'est lui qui témoigne, il dit, quand je suis venu de mon pays d'origine, je suis venu avec beaucoup de choses en mission. On n'en a même pas, il y a des choses, on n'en a même pas encore déballées, alors qu'on était là depuis plusieurs années. Donc, on avait ramené plein de choses qui finalement n'étaient pas tous utiles. On aurait peut-être dû les donner avant de venir en mission. Bon, le volet a pris, Dieu a donné, Dieu a repris, gloire à Dieu. L'expérience qu'il en a tirée, c'est, il ne faut pas parler trop vite. Quand on enseigne, il faut enseigner avec humilité. Parce que les gens que tu enseignes, tu ne sais pas ce qu'ils ont traversé. Tu peux dire à quelqu'un, vis avec l'essentiel, mais tu ne sais pas s'il est déjà en train de vivre avec l'essentiel. Toi, tu n'as pas encore fait l'expérience, donc tu en parles avec beaucoup de légèreté. Et il dit ce que Dieu lui a montré par la suite, c'est la fraternité des bien-aimés qui ont permis qu'il ait finalement tout ce dont il avait besoin. Les mois qui ont suivi pour vivre. Donc finalement, Dieu a remplacé des choses. C'est pour cela que si notre idole, c'est ce que nous avons, quand nous les perdons, nous devenons bien malheureux. Qu'on soit triste, désespéré parce qu'on a perdu des choses, c'est humain. Mais qu'on soit désespéré au point de ne plus vouloir vivre, ça veut dire que c'était pas Dieu qui était sur le trône de notre cœur. Et il faut être vigilant sur ces choses-là. Le faux Dieu est tout ce qui devient tellement central et essentiel à votre cœur que le Père vous ôtera tout désir de vivre. Une idole contrôle votre cœur d'une façon telle que vous pouvez lui consacrer la plus grande part de votre passion, de votre énergie, de vos ressources financières, de vos émotions. Vous ne réfléchissez même pas deux fois avant de faire les choses pour cette idole. Et on le voit, hein, il y a des jeunes qui sont des fans de football. Ils disent, le football, c'est mon idole. Et c'est vrai, hein. Il va faire tout pour aller voir son match. L'équipe préférée. Tant pis s'il doit mettre tout son salaire du mois du don. Tant pis s'il doit traverser des intempéries. Tant pis, même si au match, au stade, ça a été très compliqué, qu'il a été bastonné. Il veut voir ce match à tout prix. Sinon, il ne peut pas rentrer à la maison. Être passionné du sport, c'est pas mauvais. Mais quand ça devient ce point-là, c'est une idole. C'est une idole. Et j'ai parlé de la question de la beauté, qui dans beaucoup de nos cultures sont devenues aussi une idole. L'erreur de la plupart de ceux qui entendent parler du concept de l'idolâtrie, c'est que nous croyons que les idoles sont mauvaises en soi, c'est-à-dire qu'elles ne nous procurent aucun plaisir. C'est là l'erreur. Et l'ennemi, il sait. Vous savez, le péché, c'est pas tout ce qui nous fait mal. Le péché, c'est parfois un plaisir, mais un plaisir qui n'est pas dans le cadre de Dieu, et c'est un péché. Quel exemple pour que vous compreniez ce que je dis. Quand les gens commencent à être addicts à l'alcool, pour quelqu'un qui n'est pas quelqu'un qui aime l'alcool, il ne comprend pas en fait. Mais l'alcool, quelle que soit sa saveur, elle procure une sorte de plaisir sur le cervelet en fait. C'est pour ça que les ivrognes, ils sont toujours joyeux. Ils sont toujours, c'est des gars qui rigolent. Le gars, il est saoulé, mais il rigole aux éclats. Tu dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Parce que l'alcool a un effet sur notre cervelet et ça crée une sorte de plaisir. Et c'est ce plaisir-là qui devient une dépendance, en fait. Et c'est ça le piège. Le piège, il est là. C'est-à-dire, la personne prend du plaisir, elle se dit, puisque je prends du plaisir, ça me fait du bien. C'est faux. Puisqu'on sait que trop d'alcool, ça ne fait pas du bien. Ça commence à attaquer les organes du corps. Pareil pour la cigarette. Moi, j'ai fumé pendant un certain temps. Il fallait me dire d'arrêter, mais non, il y a un plaisir dedans. Puisque la nicotine, elle fait addiction. Elle te dit, t'en as besoin, mais en fait, t'as pas besoin. Mais comme elle s'est collée à ton cerveau, elle envoie un message, elle dit, t'en as besoin. Donc, quand tu finis de prendre un repas, tu dois passer la cigarette sous ton repas. C'est systématique comme un dessert, mais en fait, c'est faux, t'as pas besoin. Puisqu'il y a aucun aliment nutritif dans la fumée qui sort. D'après un missionnaire, il dit, c'est comme si tu ouvrais tes narines sous l'échappement d'une voiture. C'est littéralement, et il a raison, c'est littéralement ça. C'est littéralement ça. Mais on dit ça, plaisir, tu vois, les gars, ils s'assoient, ils croisent les pieds. Même notre société a fini par dire, le tabac tue. Maintenant, ils l'ont mis même sur les paquets de cigarettes. Et pourtant, il y en a qui achètent des cartouches. C'est ça le péché, bien-aimé. C'est ces plaisirs qui nous attirent, qui nous séduisent, qui nous détruisent, qui détruisent l'image de Dieu en nous. Ne croyez pas que les idoles viennent en mode peur. Non, ils viennent en mode séduction, tacite, implicite. Il faut les débusquer, il faut les démasquer dans le nom de Jésus pour nous en délivrer. Si vous commencez à chercher votre joie, votre identité et ou le sens de votre vie dans quelque chose d'autre que Dieu, alors cette chose est une idole. Beaucoup se tournent vers ces idoles pour en tirer l'espérance, le sens de la vie et l'épanouissement que Dieu seul peut donner. Elles nous promettent la sécurité, la paix, le bonheur, si seulement nous voulons bien bâtir nos vies sur ces idoles. Dieu nous a donné des biens, Dieu nous a donné des belles choses, il faut en jouir. Tout en reconnaissant que c'est Dieu qui nous les donne et que notre plaisir vient de Dieu, non pas de ce qu'il nous a donné. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Notre plaisir vient du donateur et non pas du don. Et nous, parfois, on est attaché au don plus qu'au donateur. Timothée Keller a dit, le cœur humain est une fabrique d'idoles. Le cœur humain est une fabrique d'idoles. Pour la plupart d'entre nous, le mot idole évoque une statue au sens propre, ou la prochaine gagnante de Star Academy. De nombreux peuples pratiquent encore aujourd'hui des cultes des idoles un peu partout dans le monde. Mais l'idolâtrie intime, celle qui a lieu dans le cœur de chacun, est une pratique universelle. Et en Ézéchiel, chapitre 14, verset 3, Dieu dit des anciens du peuple d'Israël, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Tout comme nous, ces anciens ont sûrement réagi à cette accusation. Idole, quelle idole? Je ne vois aucune idole ici. Dieu voulait leur montrer que le cœur humain a tendance à prendre de bonnes choses comme une carrière brillante, une relation amoureuse, des biens matériels ou même la famille et à les transformer en biens suprêmes. C'est ça le danger. De transformer les dons que Dieu nous donne comme si c'était eux les donateurs. Ta richesse n'est pas le donateur, c'est Dieu qui te donne la richesse. Ta famille n'est pas le donateur, c'est Dieu qui te donne la famille. Ta carrière professionnelle n'est pas le donateur, c'est Dieu qui te donne la santé et qui te donne les capacités pour évoluer dans ta carrière professionnelle. Que Dieu nous aide à rester des vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Il y a des idoles personnelles, il y a des idoles culturelles, il y a des idoles intellectuelles. Il y en a qui ne jugent que par des idéologies de notre monde, comme si c'est les idéologies qui allaient résoudre tous les problèmes. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Certains de nos pays ont fait l'expérience de toutes les idéologies politiques, ça n'a pas réglé tous les problèmes de tout le monde. Les communistes avaient dit que si c'était au pouvoir, en tout cas, dans un certain temps, tout le monde serait bien. Ça s'est pas vérifié. C'est le contraire qu'on a vu. On a vu même que ceux qui disaient ça se sont devenus des nouveaux riches et il y avait des classes de pauvres, malheureusement. Et pourtant, ils disaient, on est tous égaux. Disez-vous, hein. On est tous égaux, mais c'est vous qui gardez la clé de la grange et du grenier. Donc, nous, on sait pas la nuit si vous allez ouvrir pour vous servir. Et c'était ce qui s'est passé. Donc, toutes les idéologies politiques valent ce qu'elles valent, mais elles ne peuvent pas remplacer Dieu. Je suis désolé, elles ne peuvent pas remplacer Dieu. Enfin, pour terminer, comment échapper à ce piège des idoles et rester des vrais adorateurs de Dieu? Ne pas oublier que nous sommes dans un combat spirituel. ne pas oublier que nous sommes dans un combat spirituel. L'ennemi, il le sait. Nous, parfois, on l'oublie. Il est celui qui nous piège parce que c'est son travail. Il s'appelle le malin. N'oublions pas. Parfois, les croyants concluent des trêves, c'est-à-dire, parfois, on se dit, oh, c'est pas dangereux. Et puis, on se laisse, hein, vous savez, la grenouille, là, qu'on met dans de l'eau chaude et qui saute aussitôt. Mais apparemment, quand on la met dans de l'eau froide et qu'on fait chauffer cette eau tout doucement, elle ne sortira pas, malheureusement, jusqu'à ce qu'elle périsse dans l'eau chaude. Puisqu'elle s'accommode à la température, et au moment où elle sait que la température est trop élevée, c'est déjà trop tard pour elle. Et c'est le danger qui guette les chrétiens, de s'accommoder trop facilement du monde et de laisser le monde nous inhiber et parfois. Qu'est-ce qui donne du sens à ta vie? Qu'est-ce qui donne du sens à mon existence? Est-ce Dieu? Si c'est Dieu en Jésus-Christ, gloire à son nom. Aimons Dieu, faisons-lui confiance, obéissons à notre Dieu. Cette Samaritaine a témoigné, les Samaritains se sont repentis, se sont tournés à Dieu, ils ont écouté ce témoignage, ils sont venus chercher la vraie explication auprès de Jésus. Jésus est resté 2 jours avec eux, il les a enseignés et ils ont dit, waouh, tu avais témoigné, c'est vrai. Mais là, on a entendu ses paroles lui-même. Et aujourd'hui, si on est converti, c'est pas simplement à cause de ton témoignage, mais aussi parce que nous avons entendu les paroles de la vérité. Et l'apôtre Pierre a dit, où irions-nous loin de toi? Tu as les paroles de la vérité. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa gloire et pour sa grâce. Qu'il continue d'être celui que nous adorons et que nous soyons toujours des adorateurs en esprit et en vérité. Amen.